il paraît difficile de ne pas créditer la terreur, ce régime donc qui va de mars, ce régime d'exception qui va de mars 1993 à juillet 1794, comme généralement admis, d'une inventivité majeure en matière donc de qualification de l'ennemi politique. Ce régime, en effet, va en très peu de mois, en 6 mois, inventer 3 figures de l'ennemi, la plus connue à cause de Taines et des colibés qu'elle value à Philippe-Antoine Merlin de Douai, c'est le suspect, inventé donc par la loi du 17 septembre 1793, mais les 2 autres ennemis un peu moins connus et pourtant beaucoup plus radicaux sont les mis hors de la loi, décret de mars, 19 mars 1793, et la figure de l'émigré qui va m'intéresser plus particulièrement ici. Quand je dis « invente », c'est un bien grand mot, puisque si l'on en croit l'un des bréviaires de la pensée libérale, de la liberté des anciens comparée à celle des modernes que publie Benjamin Constant en 1819, sous la Restauration, donc, je cite, « l'assujettissement complet de l'individu à l'autorité de l'ensemble, qui distinguerait la conception de la citoyenneté mise en œuvre sous la Révolution, proviendrait en ligne directe, non pas des Romains, comme l'a montré Michel Humbert, mais bel et bien des Grecs. Et il y a ce substrat de la pensée ancienne et des philosophes antiques dans la pensée politique des révolutionnaires qui a été bien étudiée. La dimension donc communautaire, voire holistique, la densité politique de la citoyenneté définirait l'essence même de la citoyenneté républicaine telle que pensée par la Révolution. Et donc, il faudrait attendre un processus d'individualisation, je répète ce qu'a dit Yves Deslois, commencé donc au XIXe siècle, pour voir en quelque sorte se mettre en place une citoyenneté allégée par rapport à la citoyenneté du XVIIIe siècle. Bien. Moi, je voudrais juste essayer d'enfoncer des coins et de troubler un peu cette heureuse chronologie en venant donc sur la catégorie de l'immigré. Il me semble que, plutôt que de penser simplement les nouvelles catégories juridiques qui apparaissent à ce moment-là en référence à des grandes références de la philosophie politique, qu'il s'agisse de Rousseau ou des penseurs athéniens de la citoyenneté, il me semble qu'on aurait intérêt à regarder un peu précisément comment les juristes ont bricolé, et passez-moi à l'expression, certaines des catégories, en tenant compte à la fois des instruments du droit et qui a une incontestable autonomie et des circonstances qui sont des circonstances extrêmement mouvantes, surtout si on les prend donc entre 1791, parce que l'Assemblée constituante a une importance dans la généalogie de l'immigré, et jusqu'en donc 1794. Alors l'immigré, ça n'est pas une figure de l'ennemi qui a de tout temps existé. Il est important de bien voir qu'il va y avoir la langue révolutionnaire va longtemps fourcher. C'est-à-dire entre 1791 et 1792, on parle de rebelles, on parle de transfuges, on parle d'immigrants, et ça n'est en réalité qu'à partir de 1792, à l'automne 1792, que la langue des juristes se stabilise et parle exclusivement d'immigrés. Or, comme le disait un député obscur mais intelligent, sans mot précis, on n'a pas d'idée nette. Il faut trouver la signification exacte du mot immigrant, la citation date de 91. Sous ce mot se confondent un grand nombre de personnes dont les motifs et les mouvements sont totalement divers. À partir du moment où le vocabulaire va progressivement s'identifier, signifier autour, donc pour désigner l'immigré, il est important, et je ne pourrais faire là que de donner des grands points de repère, de comprendre ce qui se joue dans la constitution de cette catégorie. Le premier élément, c'est que la définition de la citoyenneté à l'époque révolutionnaire relève de la loi. Alors, j'ai toujours une réticence quand j'entends dire ce que je sais être la vérité, c'est que le droit pénal relève du droit privé. Il se trouve que la Révolution a été incapable de concevoir, ce qu'a magistralement démontré Jean-Louis Alperin, un code civil, qu'en revanche, elle s'est dotée de 2 codes pénaux, celui de 91 et celui de 95. Mais au départ, je ne parle pas de loi pénale. La définition de la citoyenneté relève de la loi. C'est les premiers débats de 1791 et c'est ce qui va permettre à Mirabeau de bloquer tout projet de loi concernant les immigrants à l'époque, pour une raison assez simple, en considérant que porter atteinte à la libre circulation des personnes, c'est remettre en question l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et donc que toute loi concernant les immigrants serait une loi inconstitutionnelle. Et il va y avoir cette chose absolument étonnante où Le Chapelier, qui est le rapporteur du comité de législation, arrive à l'Assemblée et dit effectivement la loi est impossible. Et là, le premier travail des juristes va essayer de passer de la loi impossible à la question du bonne loi. Autrement dit, est-ce que la loi peut s'emparer de ce sujet, c'est-à-dire des Français qui sont absents du royaume, auxquels on demande de rentrer pour prouver leur attachement à la République et produire une bonne loi. Ça, c'est une chose importante parce que vous avez des juristes très importants, type Merlin de Douai, qui est le grand légiste de la Révolution, qui vont dire ceci, je cite Merlin de Douai, Jean-Jacques Rousseau, dans son contrat social, a posé comme maxime fondamentale que dans les temps de troubles, on est en 91, les émigrations peuvent être défendues, je n'ai pas médité, il est vrai, le projet de loi dont la possibilité est démontrée par cette seule assertion, mais de ce que Jean-Jacques Rousseau a cru possible qu'un corps politique pouvait défendre les émigrations dans un temps de trouble, j'en conclus tout au moins qu'un bon projet de loi sur cette matière n'est pas impossible. Il y a une autre citation de Rebelle, que je pourrais aussi citer, mais qui va dans le même sens. Mais en 91, la présence de Mirabeau, le fait que la Constitution vient d'être votée, adoptée par le roi, qu'en septembre 91 intervient une loi d'amnistie, fait qu'il y a un refus d'imaginer la loi. Là où les choses vont changer extrêmement vite, c'est à partir du moment où intervient la guerre. Et la guerre va en quelque sorte légitimer, à partir d'avril 1792, va en quelque sorte ouvrir la possibilité de la loi et ouvrir la possibilité d'une bonne loi. Parce que à chaque fois que les juristes de la Révolution travaillent l'exception, ils essaient de la travailler en fonction des principes. Et cette bonne loi, pourquoi y a-t-il une bonne loi possible? Eh bien parce qu'on va procéder à une assimilation. C'est-à-dire considérer que les immigrés concernent essentiellement deux types de personnes, les militaires qui ont le devoir de défendre leur patrie et qui ne sont pas rentrés, et des gens qui considèrent qu'ils peuvent échapper à la loi. Autrement dit, en 1792, qu'est-ce qu'un immigré ? C'est un déserteur et un contumace. Et à partir du moment où vous pouvez définir une infraction, la bonne loi d'exception possible devient une loi possible. Et ça, il me semble que c'est tout à fait essentiel. À partir du moment où donc, vous pouvez, les militaires et les déserteurs peuvent être donc sanctionnés par la loi, il va y avoir la mise en place, et c'est aussi important, il faut bien comprendre, et ça c'est ma deuxième grande idée, que la citoyenneté telle que l'entend la Révolution est indissociable d'un cosmos qui est un cosmos militaire. Je veux dire par là un univers où le droit et la narration sont intimement mêlés, c'est la définition qu'en donne Covert, et qui donne aux militaires une importance absolument essentielle. À partir de la fuite par Varennes du roi en juin 1791, il existe des projets de décret qui montrent que tous les citoyens français se trouvent en réalité en état de réquisition. Et plus on va rentrer dans la guerre à proprement parler, plus cette matrice militaire de l'émigration va être absolument fondamentale pour comprendre que, et c'est là où les peines interviennent, celui qui joue et choisit l'émigration, en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne à ses concitoyens le soin de défendre la patrie, et surtout, il se met en dette vis-à-vis d'eux, parce qu'il faut que les ravages qui sont causés par la guerre puissent être, en quelque sorte, indemnisés. Et les premières sanctions contre les immigrés, elles ne concernent pas leur vie, elles concernent les biens. C'est-à-dire qu'on va confisquer les biens en considérant que, effectivement, c'est une indemnité qui est due à la nation. C'est à partir de la confiscation générale des biens que va pouvoir s'édifier un système de répression pénale qui va aboutir, en mars 1793, à déclarer mort civile les immigrés et les gens qui leur sont associés, c'est-à-dire des gens dont les biens sont susceptibles d'être confisqués, mais dont la vie également peut être auquel la vie peut être retirée. Et à partir de donc ça, si vous voulez, cette matrice qui est à la fois liée la matrice de la citoyenneté à travers la figure de l'immigré montre donc l'importance de la loi pénale dans la définition de la citoyenneté, l'importance de l'univers militaire dans cette définition. Et il me semble qu'il y a un texte absolument essentiel pour penser la nature philosophique de ce que la Révolution invente avec l'immigré. Ce texte a été écrit par Emmanuel Kant et il concerne l'essai sur les grandeurs, la tentative donc d'un essai sur les grandeurs négatives. Qu'est-ce qu'une grandeur négative, selon Emmanuel Kant ? Une grandeur négative, c'est une valeur négative. Et à partir du moment où vous considérez que l'immigré est celui qui blesse deux fois la loi par sa désertion et par sa contumace, effectivement, il devient une valeur qui s'oppose de façon tout à fait dynamique à la valeur de la citoyenneté et donc permet de penser en négatif ce que l'on est en droit d'attendre du bon citoyen. Qu'est-on en droit d'attendre du bon citoyen à partir de cette figure d'anti-citoyen que représente l'immigré ? Ce sera mon troisième point. Des valeurs qui sont la réciprocité, la loyauté, l'engagement au service de la patrie et une idée fondamentale qui est le fait que l'on doit être prêt à mourir pour la patrie. Ça reste des, en quelque sorte, ce qui serait les socles de la citoyenneté pensée à travers la catégorie de l'anti-citoyen qui est celle de l'émigré. Alors, dans les minutes qui me restent, je vais conclure. Si vous voulez, l'émigré n'est pas resté dans la mémoire nationale comme une figure aussi importante de l'ennemi que l'a été le suspect. Or, le suspect est construit à la fin de la Terreur par Tallien pour être la figure la plus connue et la plus visible de l'ennemi politique et en particulier donc de l'insécurité juridique que fait régner la Révolution. Je pense que ce que font les révolutionnaires avec l'immigré est une catégorie qui est bien autrement problématique que celle du suspect, dans la mesure où le suspect instaure en quelque sorte la première mesure de sûreté en droit. Ce qui se passe avec l'immigré est d'une toute autre nature parce que on voit apparaître avec l'immigré le hors-sujet de droit, c'est-à-dire, pour s'inscrire dans la tradition des travaux du doyen Carbonnier, le sujet, le non-sujet de droit, et qui légitime des peines incroyablement radicales dans la mesure où vous avez quelqu'un qui se situe donc dans la grandeur négative de la loi. La deuxième chose qu'il faut voir avec l'immigré, c'est que les juristes révolutionnaires vont donner un primat à la citoyenneté pour une raison, pour des raisons de valeur, c'est absolument évident, mais aussi pour une raison technique. Pourquoi ? Parce que, et c'est pour ça qu'ils ne vont pas admettre et qu'ils vont décider de ne pas définir l'étranger. Si, après tout, on aurait pu imaginer un scénario qui consistait à dire qu'il y avait des opposants politiques et que ces opposants pouvaient considérer qu'ils n'étaient pas français, ils pouvaient donc se déclarer étrangers. Il y a un débat extrêmement intéressant à ce sujet qui dit non, ils ne peuvent pas se déclarer étrangers. Alors, on mobilise la loi de Solon pour dire qu'il ne peut pas y avoir de neutralité dans un pays en état de guerre. Moi, j'aurais une vision un tout petit peu plus prosaïque qui consiste à dire si vous admettez que les émigrés peuvent devenir étrangers, vous ne pouvez pas confisquer leurs biens. Parce que pour ça, vous êtes obligé de restaurer le droit d'aubaine. Et s'il y a bien une chose que les juristes de la Révolution n'ont pas la moindre intention de faire, c'est de revenir et de réappliquer une législation qui vient de l'Ancien Régime. Et c'est à cause de ça, me semble-t-il, au moins autant que de la rhétorique de la loi de Solon, qui fait que l'émigré va bloquer la définition de l'étranger, la définition juridique de l'étranger, et par là même accorder à la notion de citoyenneté une importance absolument centrale dans la culture politique républicaine. Merci de votre attention.